Merci. Oui, donc effectivement, le décalage dans le temps est assez important. Et puis le décalage, du coup, par rapport à ce que voulait dire une frontière à ce moment-là, par rapport à ce qu'ont présenté Daniela et Rebecca. Mais j'imagine que c'est aussi l'intérêt. En tout cas, moi, il me semble important, à la fois scientifiquement et politiquement, de dire qu'une frontière, ça ne veut pas toujours dire la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance à ce que c'est qu'une frontière. Et d'une certaine façon, si on se place sur le temps long, de souligner le fait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une frontière extrêmement contrôlée, etc., c'est une anomalie historique, d'une certaine façon. En tout cas, voilà, ça correspond à une période bien précise, donc c'est pas, je suis évidemment pas la seule à dire ça, hein. Il y a tous les travaux des historiens, notamment de Noiriel, qui rappellent hein, que le passeport, le contrôle des frontières, etc., ça s'invente bah, il y a 100 ans. Donc on peut trouver que c'est long, mais en même temps, voilà, ça, c'est pas toujours et de tout temps les frontières n'ont pas voulu dire ce qu'elles veulent dire aujourd'hui. Et donc c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu concernant la frontière franco-italienne. Alors pour juste vous présenter un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment, enfin, d'où vient mon travail, en fait, moi je me suis intéressée aux mobilisations pour déplacer cette frontière franco-italienne en 1947. Donc ce à quoi Michel Pedinelli faisait allusion tout à l'heure, ces gens qui ont changé de nationalité sans bouger. Et donc c'est une enquête plutôt historique avec un volet aussi plus contemporain où je suis allée en 2013-2014 enquêter dans la Roya et donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, donc c'est une petite pression de parler devant ces enquêtés. Même si je ne vais pas parler de cette enquête-là en fait aujourd'hui. Et en fait, la question que je me suis posée sur cette mobilisation de 1947, sur la mobilisation des populations locales, qui ne sont pas les seules hein, évidemment à se mobiliser pour bouger la frontière, il y a aussi des diplomates, des militaires, etc. Mais la question que je me suis posée, c'était à partir de quel moment est-ce que la frontière veut suffisamment dire quelque chose pour les populations locales pour que ça ait du sens de se mobiliser à propos de la frontière ? C'est-à-dire, pour qu'on se mobilise pour faire bouger le tracé de la frontière, il faut que ce tracé frontalier ait un sens dans la vie quotidienne. Sinon, bah, voilà, il n'y a pas particulièrement de raison de mobiliser du temps et de l'énergie sur cette question. Et donc, c'est d'une certaine manière un peu ma question de départ, c'est-à-dire à partir de quel moment ça a du sens pour les populations locales. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est assez tardif en réalité, et que c'est à partir des années 1920-1930 que, en gros, les populations locales n'auraient pas pu se mobiliser avant pour déplacer la frontière, tout simplement parce que la frontière produisait assez peu d'effets dans leur vie. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est la période d'avant, et c'est une difficulté par rapport à la thématique de la journée sur les récits, c'est que, en gros, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une période où il n'y a pas de récit. Mais donc, comment montrer qu'il n'y a rien ? C'est sans doute une question sur laquelle les artistes pourraient nous aider. Et puis, si j'ai un peu de temps pour le faire, si j'ai suffisamment de temps pour le faire, de dire un petit peu quand est-ce que ça s'arrête, c'est-à-dire quand est-ce que cette frontière commence à avoir des effets sur la vie quotidienne et donc à gêner en fait hein, les populations. Pour dire aussi ce sur quoi je me base, du coup, pour moi c'est dans cette partie-là de mon travail essentiellement des sources secondaires. Et deuxième petite pression, en plus de parler devant mes enquêtés, je parle aussi devant les historiens dont j'utilise les travaux.
Attention à ce que tu vas dire. Hein.
Bah, non, mais là, c'est donc double pression, d'autant plus que bah, voilà, ils vont rappeler qu'il y avait des travaux anciens sur la frontière de la part d'historiens notamment, et que moi, pour ma part, je suis une nouvelle venue sur le travail sur la frontière et sur l'immigration. C'est pas sur ça que j'ai fait ma thèse, etc. Donc voilà, je parle sous un double regard. Mais en tout cas, voilà, je me suis servi bah, beaucoup de ces travaux-là, ceux qu'a cité Yvan. Et puis, en termes de sources originales, sur quelques enquêtes agricoles qui se développent au début du XXe siècle sur la vallée de la Roya, en comparant aussi, en utilisant aussi des travaux de chercheurs italiens, d'historiens, d'histoire anthropologique italienne, on dirait de socio-histoire en France. Et mon idée, du coup, c'était de voir si la vallée de la Roya était spécifique par rapport aux autres vallées des Alpes liguro-piémontaises. avec la question de savoir du coup si la frontière changeait quelque chose. Si, du fait que cette vallée soit traversée par une frontière, en particulier les activités agricoles, pastorales, de circulation, etc., des villageois étaient différentes. Donc, ma réponse, vous avez compris, ça va plutôt être non pendant longtemps, ce qui est une manière de dire, bah voilà, il n'y a pas d'effet spécifique de la frontière pendant assez longtemps. Donc l'idée, la période que j'ai regardée, c'est en fait à partir de 1860, donc le moment où le tracé est déplacé, où, en réalité, pendant assez longtemps, le fait que la frontière se mette à passer entre le haut de la vallée de la Roya et le bas, et la France, bah, change pas grand-chose. En tout cas, c'est ce dont je vais essayer de vous convaincre. Et en même temps, donc d'une certaine manière, la vallée de la Roya est une vallée alpine comme une autre, et en particulier concernée par des circulations et des migrations temporaires comme les autres. Ce qui est sans doute spécifique, c'est que, contrairement à la plupart des vallées, les circulations ne vont pas du haut vers le bas de la vallée. C'est-à-dire que classiquement, hein, dans les travaux sur les migrations montagnardes, bah ce qu'on voit, c'est que les gens circulent plutôt le long du fleuve, qui est une voie de communication, et que donc il y a plus de circulation entre la haute vallée et la basse vallée qu'entre, par exemple, des hautes vallées qui sont voisines, mais qui sont séparées par des cols, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans la Roya ? Parce que, pour le coup, là, il faut remonter à l'histoire encore beaucoup plus ancienne, parce qu'en fait, c'est une vallée qui a toujours, puis je vais donner un peu le détail, toujours été morcelée politiquement. Et qui, en réalité, la haute vallée, la moyenne vallée et la basse vallée appartiennent à des unités politiques différentes dès le XIIIe siècle. Et ça va orienter, en fait, les voies de communication. Ça oriente notamment les routes. Et donc, ça oriente, du coup, les circulations des villageois. Pour aller très vite, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce que cette vallée est morcelée ? C'est en grande partie parce que le col de Tende est un point de passage très stratégique. C'est un des points de passage les plus faciles des Alpes, et que ça permet en particulier à une petite unité politique qui est la maison de Vintimille de se maintenir sur ce col pendant très longtemps, notamment parce qu'elle elle fait payer des droits de passage. Alors, selon les époques, on appelle ça du racket, ou bon, voilà, mais en tout cas, elle fait payer des droits de passage du col. Et du coup, ça lui permet de se maintenir entre les grandes forces politique de l'époque, c'est-à-dire d'un côté la République de Gênes, les États sardes, puis de Savoie, puis Sardes, puis Piémont-Sardaigne, et la Provence de l'autre côté. Et du coup, on a ces trois forces-là qui se frottent dans la Roya, avec au milieu cette petite unité politique qui se maintient sur le col, qui fait que il y a qu'une petite période en fait hein, où la vallée est unie politiquement, c'est de l'occupation par les troupes françaises révolutionnaires, donc à la toute fin du XVIIIe, qui occupe et la vallée de la Roya et la République de Gênes, et donc qui unifie le bas de la vallée qui appartenait à la République de Gênes, la moyenne vallée qui appartenait à la Provence et la haute vallée qui a fini par appartenir au royaume de Savoie, jusqu'à 1860 où on revient en fait aux frontières du XIIIe siècle. Donc en réalité, on est sur une vallée qui est toujours morcelée et avec du coup des voies de communication qui vont éviter la basse vallée, puisque la basse vallée appartient au royaume de Gênes, et du coup, pour les États de Savoie, puis Sardes, puis Piémont, bah, c'est plus pratique d'aller directement de Nice à Turin sans passer par Vintimille. Et donc, on a des routes du sel qui varient, hein, c'est pas toujours les mêmes selon les périodes, mais qui, en tout cas, évitent la basse vallée, puis évitent la moyenne vallée et vont directement à Tende ou à la Brigue. Ce qui explique, ce qui oriente par la suite les migrations, c'est-à-dire qu'évidemment, ensuite, les gens suivent les voies de communication qui existent. Donc je rentre pas plus dans le détail là-dessus. Quand on arrive en 1860, cette frontière qui remorcelle à nouveau la vallée, en réalité, elle modifie assez peu les circulations dans cette vallée. Et de ce point de vue-là, la Roya est assez typique des montagnes. Alors je dois dire, sans doute que pour les spécialistes des migrations, c'est une évidence, mais moi qui connaissais pas ces travaux, en fait j'ai été surprise en me mettant à travailler sur des petits villages de montagne sur à quel point en réalité les migrations sont l'ordinaire, et depuis longtemps, de ces villages de montagne, ce que savent très bien les historiens, hein, mais que voilà... D'abord parce que, du fait de l'altitude, les activités et agricoles et pastorales sont mobiles, c'est-à-dire qu'en fonction du climat, on va aller cultiver des terres ou aller récolter, faire de la cueillette ou récolter du bois dans des zones qui sont plus ou moins enneigées, donc on va aller plus ou moins haut ou plus ou moins bas dans la vallée selon la période de l'année. Et donc sans même parler de migrer dans un autre pays ou de quitter le haut de la vallée, à l'échelle même des villages, on a en fait des villages qui sont très étendus, avec des activités agricoles et pastorales mobiles. Et donc on a une vie traditionnelle, agricole et pastorale, qui est mobile, avec des villageois qui en fait n'habitent au village que les quelques mois d'hiver, qui le reste du temps sont dans les campagnes, en hauteur, dans les pâturages d'automne, puis dans les pâturages d'été, etc. Pour vous donner une idée, hein, Tende et la Brique, de ce point de vue-là, ressemble au reste du Piémont, c'est-à-dire qu'il y a 10% des surfaces qui sont cultivables, le reste étant affecté à des usages... Enfin, pour le reste, l'enjeu pour les villageois, c'est de trouver des usages productifs aux terres non cultivables, donc pâturage, exploitation des forêts, cueillette, des champignons, de la lavande, etc. Et puis... ces activités, cette mobilité qui existe déjà à l'échelle de la vallée, elle se fait aussi entre montagne et plaine, elle s'étend aussi sur une échelle plus vaste. Là aussi, c'est en partie lié au climat, hein. Il y a des explications un peu basiques, qui est que le climat fait que les saisons des récoltes sont décalées entre la plaine et les hautes vallées. Donc les agriculteurs des vallées, quand en gros il neige, il y a de la neige en haute montagne et qu'on ne peut plus faire grand-chose, vont aller faire les récoltes, des récoltes d'automne et d'hiver sur la plaine, donc les récoltes des vignes, des olives et l'hiver des fleurs. Et donc on a, dès le Moyen-Âge, hein, des migrations temporaires entre plaine et montagne, avec... Ce que relatent hein, tous les travaux d'historiens jusqu'au 19e, en fait, des difficultés linguistiques ou culturelles qui sont inexistantes, puisque les habitants ne parlent ni le français ni l'italien, mais des patois locaux qui permettent de se comprendre, avec en fait une distinction assez difficile à faire entre ce qui serait de l'ordre de la mobilité à l'intérieur d'un même pays et ce que sont des migrations internationales qui traversent une frontière. Cette logique-là, elle change assez peu au moment où l'émigration italienne prend de l'ampleur, donc justement à partir de 1860 et de la seconde moitié du 19e, puisque en réalité, hein, l'émigration du nord de l'Italie vers le sud de la France et l'émigration temporaire continuent d'être importantes, même quand l'émigration italienne prend de l'ampleur. Pour en donner juste peut-être un exemple, Pierre-Georges, qui étudie donc l'immigration italienne en France dans les années 20 et 30, fait du principal couple démographique, le principal couple migratoire, pardon, donc pour lui, c'est celui qui unit la province de Cuneo et les Alpes-Maritimes, en disant, puisque c'est là que les flux sont les plus anciens, les plus nombreux, etc., et en qualifiant de migration sociologiquement très voisine d'une migration intérieure. Donc à nouveau, hein, avec voilà, un rôle de la frontière nationale qui est assez peu visible. C'est aussi ce que montre le travail d'Yvan Gasto sur les habitants du Tonkin, venus de la Ligurie et du Piémont, qui en fait reviennent dans les villages pour les fêtes, pour les festins, les mariages, etc., sans aucun problème, pour qui voilà, il n'y a pas de séparation entre la vie qui mène, le lieu de travail sur la côte et la participation aux événements du village, quand bien même il faut traverser une frontière nationale pour le faire. Ce qu'il faut souligner, c'est que même au début du XXe siècle, ces migrations, elles continuent en grande partie d'échapper aux États. C'est-à-dire que autant les émigrés italiens qui partent, notamment en Amérique latine, sont assez bien enregistrés, puisqu'il faut demander des passeports, il faut s'enregistrer sur les bateaux, etc. Il y a des traces. Autant ceux qui vont dans le sud de la France, ils vont en grande partie à pied, par des chemins de montagne, et échappent en très grande partie au comptage. Et de fait, hein, quand on regarde les travaux des historiens des migrations italiennes, en gros, ils disent que jusqu'aux années 20-30, les chiffres sont vraiment à prendre avec précaution parce qu'il manque une grande partie de ces migrations. Merde. Ok. Donc je dis juste qu'il y a notamment, pour illustrer ça, hein, il y a un tunnel piéton creusé dans la montagne par lequel les gens passent. Donc ce qui est assez significatif, hein, du fait que, bah, voilà, évidemment, il n'y a personne qui compte à la sortie de ce tunnel piéton. Alors je vous dis très rapidement que dans les années 10-20-30, dans les recensements italiens, on sait quel pourcentage de la population est émigré à l'étranger. On sait si les personnes temporairement absentes sont en Italie ou à l'étranger. Dans la Haute-Roya, de façon continue jusque dans les années 30, 80 à 90% des gens qui sont absents sont à l'étranger. Alors on ne sait pas où à l'étranger ils sont, mais voilà, on peut avoir une idée. On peut avoir une idée. La seule chose du coup que je vais vous dire dans les trois minutes qui restent, c'est que ce qui rend aussi possible, hein, le fait de rester dans cette situation assez fluide, assez tardivement, hein, dans la Roya, puisque en général on considère que c'est plutôt avant la Première Guerre mondiale que les choses se resserrent. Alors, il me semble que dans la Roya ça se resserre plutôt dans l'entre-deux-guerres. C'est notamment lié à la politique italienne de conservation de la nationalité pour ces émigrés et aux aménagements qui permettent en gros de rester italien en vivant en France, de rester italien sans faire le service militaire, ce qui permet assez tardivement à ces émigrés d'être à la fois français et italien, puisque l'État italien a une politique assez qui encourage la conservation de la nationalité. À l'inverse de la France, hein, qui a une politique d'assimilation assez radicale, assez volontariste. Si les deux États avaient eu la même politique que la France, ça n'aurait pas été possible de rester dans cette position d'entre-deux. Là, le fait que les lois sur la nationalité italienne encouragent à le rester, encouragent des formes de double nationalité, rend possible de maintenir des formes d'entre-deux. Et en réalité, ce n'est pas tellement la loi italienne qui va changer, c'est plutôt les pratiques à la frontière qui changent dans les années 20 et 30. J'en donne juste un exemple, du coup comme ça je fais comme si j'en avais beaucoup sous le pied mais que je n'avais pas le temps de le dire, qui est que à la fin des années 20, début des années 30, il y a des protestations de la part des villageois parce que désormais les femmes mariées n'ont plus le droit, n'ont plus de permis pour se rendre en France. Et donc, il y a rien dans, c'est pas dans la loi, hein, c'est dans la pratique, avec l'idée de retenir en fait les familles, d'obliger les migrants temporaires à revenir, puisque bon, on peut imaginer que si leur épouse est au village, ils vont revenir à un moment, de politique aussi fasciste de faire naître les Italiens en Italie et donc d'empêcher les femmes mariées d'aller produire des enfants ailleurs. Et donc, on voit, hein, que c'est plutôt dans des pratiques de restriction de la circulation que les choses changent dans l'entre-deux-guerres. Voilà, désolé, j'ai mal géré longtemps.
Merci Lucie.